Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas vus, pardon. Mais voilà, le fait que nous ayons ce matin pas mal évoqué que voilà, une certaine proximité avec le Seigneur était souhaitée dans nos vies. L'introduction de Thibaut sur le désir de voir Dieu m'a fait penser à des échanges que nous avons eus avec Flo. Lors de notre dernier voyage dans un pays que nous visitons maintenant depuis plusieurs fois, avec des chrétiens qui sont responsables de groupes de maison. Donc, je voulais juste partager deux, trois réflexions à ce sujet-là. Et je ne serai pas très, très long. Voilà. Et si vous permettez, je voudrais commencer par prier pour demander au Seigneur de nous ouvrir la parole. Père, nous avons souhaité, tu vois, te voir ta face comme Moïse l'a fait. Et nous voulons, Seigneur, en ouvrant ta parole, que tu nous parles, que nous te voyons, et que tu parles à nos cœurs. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement, pour que cette parole que tu nous as laissée soit vivante en nous, opérante, et qu'elle puisse aussi, dans ce jour de grâce encore, être entendue par des personnes qui ne te connaissent pas, et qu'elle puisse être puissante à salut. C'est la prière que nous t'adressons. Amen. Je disais, Flo, quand tu n'étais pas là, que j'allais faire référence à des entretiens qu'on a eus lors de notre dernier voyage. Et pour ça, je voudrais lire deux passages en particulier dans lesquels on voit le Seigneur ressusciter des personnes. Je ne vais pas tellement m'arrêter sur les modalités ou sur le fait que le Seigneur a effectivement ressuscité, mais plus par les quelques mots que le Seigneur dit juste après, quelques instructions. Et donc, on va s'arrêter sur trois instructions dans deux cas particuliers. Trois instructions que le Seigneur donne à l'entourage de la personne ressuscitée. Et vous remarquerez au passage que les instructions qui sont données par le Seigneur à l'issue des résurrections ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont données à l'issue des guérisons. À l'issue des guérisons, le Seigneur s'adresse essentiellement à la personne guérie. Et à l'issue des deux résurrections dont on va parler là, le Seigneur s'adresse à l'entourage, alors que la personne est en capacité d'entendre quand même des instructions pour elle-même. Mais ce n'est pas les instructions qui sont données juste après. Donc c'est vraiment quelques mots. Le premier cas dans l'évangile de Luc, et donc fin du chapitre 8, c'est la résurrection de la fille du chef de la synagogue. Et donc, juste pour le contexte, parce que comme c'est un passage qui est intégré dans un ensemble, on va peut-être commencer au verset 49. Comme il parlait encore, il vint quelqu'un chez le chef de la synagogue, lui disant: « Ta fille est morte, ne tourmente pas le maître. » Au verset 50, et Jésus, l'ayant entendu, lui répondant, dit: « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Et quand il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer, sinon à Pierre et à Jean et à Jacques, et au père de la jeune fille et à la mère. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle, et leur dit: « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se riaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais lui, les ayant tous mis dehors et l'ayant pris par la main, cria, disant: « Jeune fille, lève-toi !» Et son esprit retourna en elle, et elle se leva immédiatement, et il commanda qu'on lui donnât à manger. Et ses parents étaient hors d'eux, et il leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé. Pas grand-chose, je vais m'arrêter sur ce mot, cette instruction. Il commanda qu'on lui donnât à manger. On a une petite fille qui est morte et donc qui revient à la vie. Et il me semble que dans les évangiles, on a quand même ces deux cas assez spécifiques et différents de la guérison et de la résurrection. Et dans le cas de la résurrection, je peux bien croire que, et je veux bien croire que c'est très proche de venir à la vie. On revient à la vie. Et on a affaire donc à quelqu'un qui vient à la vie, et quand il ouvre les yeux, qui est-ce qu'il voit? Il voit le Seigneur. Ça nous parle de notre première venue à la vraie vie, à la vie éternelle. Un peu différemment de ce qu'on va avoir dans la guérison. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit à l'entourage de la petite fille? C'est de lui donner à manger. Et à qui il dit ça, le Seigneur? Il dit ça au chef de la synagogue. Je ne sais pas si vous réalisez qu'en fait, il est en train d'expliquer à celui qui a le plus grand savoir en Israël, qui connaît le plus les écrits de la parole, de nourrir sa fille. Et comment on l'entend, ça? Oui, bien sûr, elle a passé du temps sans s'alimenter et il faudra lui donner à manger physiquement, effectivement. Mais c'est pas anodin que cette instruction de donner à manger s'adresse au chef de la synagogue. Hein. Le Seigneur, il dit au chef de la synagogue, maintenant tu vas lui donner à manger. Autrement dit, ce que tu as fait jusqu'à présent de lui donner à manger pour la nourrir, ça suffisait pas ou c'était pas exactement? Maintenant tu vas la nourrir, tu vas lui donner à manger. Chef de la synagogue, c'est aussi, peut-être que ça nous parle de ce que nous devons faire dans l'Église. Et donc, quand quelqu'un vient à découvrir la vie éternelle, comment nous, on lui donne à manger? Comment on l'alimente? Comment on l'entoure? Comment on lui donne la vraie nourriture? Et c'est un des défis qu'il y a dans les églises souterraines, de reconnaître les personnes qui sont venues à la vie, parce qu'on ne le sait pas toujours, et ces personnes-là vont chercher un endroit où elles puissent être nourries. Et plusieurs disent qu'ils ont attendu, alors ça dépend des endroits ou des pays, selon la dureté de la répression ou de la persécution, mais il y a un temps parfois assez long entre le moment où quelqu'un vient à découvrir le Seigneur et puisse trouver un endroit où il soit nourri. Il y a des pays où ça peut être plusieurs années avant de découvrir qu'en fait, on n'est pas tout seul et qu'il y en a d'autres, et de découvrir un endroit où on peut être nourri. Lors de notre dernier voyage, on a rencontré quelqu'un, ça faisait un an à peu près qu'il était converti, venu à Christ, mais il avait dit que récemment à sa famille, et c'était la première fois qu'il mettait les pieds dans une église, là où il n'avait pas le droit d'ailleurs d'aller, mais il ne savait pas. Et donc c'est la première fois qu'il rencontrait d'autres chrétiens dans son pays, et qu'il parlait avec des personnes qui pouvaient le nourrir. Et donc cette instruction de nourrir, elle pèse aussi sur nous, en tant que chrétiens, quand on a des personnes autour de nous qui viennent à la vie. Et à nous de ne pas être défaillants sur ce thème-là. Et puis un autre passage, événement de résurrection, alors aussi très connu, hein, la résurrection de Lazare. Peut-être verset 39. Je vais peut-être commencer un peu avant. Au verset 33, on va commencer. Jésus donc, quand il... Oh, pardon, Évangile de Jean, chapitre 11, et au verset 33, excusez-moi. Chapitre 11, et verset 33. Et Jésus donc, quand il vit pleurer Marie, et les Juifs qui étaient venus avec elle, qui pleuraient, frémit dans son esprit, et son esprit se troubla, et il dit: « Où l'avez-vous mis ?» Et il lui dit: « Seigneur, viens et vois. » Et Jésus pleura. Et les Juifs donc dirent, voyez comme il l'affectionnait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, celui-ci qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'aurait-il pas pu faire aussi que cet homme ne mourût pas ? Jésus donc, frémissant encore en lui-même, vint au sépulcre. Or c'était une grotte et il y avait une pierre dessus. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que toi, tu m'as envoyé. Ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare, sors dehors ! Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Juste une petite remarque, un peu une assise à côté. Le Seigneur va s'adresser à Lazare, alors que Marthe, dont elle est la sœur, l'appelle le mort. Le mort sent déjà. C'est plus une personne, c'est plus quelqu'un qu'on connaît. Le Seigneur qui sait que Lazare, son ami, va revivre, il l'appelle par son nom. Juste ça. Il l'appelle par son nom. Lazare, sors dehors. Et donc le mort sort, et vous l'imaginez, hein, un suaire, les bandages, tout ça, et imaginez qu'il sort comme ça. Là. Probablement qu'il ne voit peut-être pas, ou il voit à travers, et il essaie de sortir. Et l'instruction du Seigneur, c'est quoi ? C'est délier-le. Délier-le. Et en particulier, c'est ce passage-là qui nous a été... transmis par une des personnes qu'on a vues lors de notre dernier voyage, à qui on demandait comment il vivait le fait que des Occidentaux viennent chez lui. Ce sera peut-être l'occasion un jour de vous montrer des photos, et quand on va rencontrer des chrétiens dans ce pays, on n'est pas dans les centres touristiques ou autres, on est vraiment en dehors, dans des endroits où aucun Occidental ne va. Personne ne se perd dans ces endroits-là. On ne va pas se balader. Quand vous allez dans ces pays, vous n'allez pas vous balader à ces endroits-là. Il n'y a aucun occidental là-dedans. Et cette personne nous a invités. Alors, le dernier voyage, nous n'étions que 4, mais nous a invités chez lui. Une autre personne nous a reçus dans un café. Mais nous a invités chez lui. Et donc, on s'étonne un peu. On dit, mais ça ne craint pas. On arrive avec une voiture qui, pour la petite histoire, on s'est raté sur la voiture, on avait une énorme bagnole, alors que, parce qu'il n'y avait plus que ça à louer dans cet endroit-là. Et donc on ne passe pas inaperçu du tout. Sur des routes défoncées qui ne sont, sont même pas goudronnées, on suit quelqu'un en vélo, voilà, ça se voit. Et à notre question un peu inquiète, vous ne craignez pas qu'on voit ? Il fait mention de ce passage-là. Il dit, vous savez, quand le Seigneur il a ressuscité Lazare, il a demandé de le délier pour qu'il soit libre de ses mouvements. Dis-moi, j'étais dans un endroit où j'étais lié et dans une prison. C'est pas pour maintenant être dans une autre prison. Et donc je veux vivre libre. Je veux vivre libre. Et si c'est risqué, c'est pas grave. Mais je veux vivre libre. C'est sûr que pour nous, c'était très fort comme parole. Et du coup, il nous a dit, mais Lazare, c'est d'autres qui l'ont délié. C'est pas lui qui le pouvait le faire. Et donc, il y a des gens qui sont venus et qui ont enlevé les liens un par un et qui ont défait tout ça. Et du coup, c'est notre travail, nous dit-il, d'aller aussi délier les uns et les autres autour de nous, quand ils sont ressuscités, quand ils sont venus à la vie, alors il faut les délier. Donc il faut enlever toute la peur, tout ce qui est de l'ancienne vie, mais aussi la peur de rester sans bouger. Parce que Lazare, il ne pouvait pas bouger. Alors ça peut avoir un peu de confort, hein. On ne bouge pas, comme ça c'est sûr qu'on n'est pas vu là, on ne bouge pas. Mais ce n'est pas ça l'instruction du Seigneur. L'instruction du Seigneur, c'est de délier. Et quand je traduis un peu aussi dans nos églises, où on est libre, est-ce qu'on délie vraiment les gens autour de nous? C'est-à-dire qu'on fait prendre conscience d'une vraie liberté? Ou est-ce qu'on remet quelques bandages un peu de temps en temps sur certains points? Parce que faudrait quand même pas trop bouger, faudrait quand même pas en faire trop. Et peut-être que notre rôle aussi, c'est de délier. Et de bien faire passer ce message-là qu'on est en Christ libre. Alors, beaucoup de thématiques là-dessus, et des séminaires sont faits sur ce sujet-là, hein, évidemment. Et je ne vais pas aller sur ce thème-là, c'est beaucoup trop long. Mais vraiment, juste se dire que de temps en temps, on a l'impression que de temps en temps, on remet des liens autour, et que ça, c'est notre responsabilité de délier. Et inversement, est-ce que Lazare, à un moment donné, on arrivait au banc de pied, et puis il dit « Non, stop, 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 ça je garde. Ça, je... Non, non, ça c'est bien, ça... Je suis confortable, là, je suis bien stable, donc non, non, je garde les liens sur les jambes, là c'est bon, là, c'est là, je peux me débrouiller comme ça. » Peut-être qu'on est parfois un peu comme ça, hein. Des petits liens qu'on aime bien garder, hein, qui rassurent un peu, qui tiennent bien debout. Hein, un petit lien à la taille, là, je vais garder ça, là, ça m'évite d'avoir mal au dos. Voilà, peut-être qu'à nous de réfléchir aussi les petits liens qu'on se met ou qu'on se garde et qui nous empêchent de vivre libre en Christ, comme l'expression et le titre du séminaire. Et puis, deuxième instruction que donne le Seigneur, c'est laissez-le aller. Et alors, ce laissez-le aller, il me fait penser à une instruction que le Seigneur donne à la fin de Matthieu, c'est « Allez et faites disciples ». Et du coup, c'est pas les instructions qui ont été données à ceux qui étaient guéris. Hein? À ceux qui étaient guéris, souvent, on dit, le Seigneur il dit « N'en parle pas, ne le dis pas ». Et là, à Lazare, qui est venu à la vie, il lui dit « Va ». Il dit « Laissez-le aller ». C'est son job maintenant. C'est son job d'aller. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Où aller? Comment aller? Vers qui? À quel endroit? Etc. Non. Justement, il dit aux gens, à l'entourage, ne lui dites pas où est-ce qu'il doit aller, ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit faire. Laissez-le aller. Et je veux croire qu'il y a quelque chose entre Lazare et le Seigneur uniquement. Mais pas de l'entourage. Ce n'est pas à l'entourage à savoir où il doit aller et comment il doit aller et vers qui. Le Seigneur, c'est l'affaire du Seigneur et de Lazare uniquement, de savoir ce qu'il doit, où est-ce qu'il doit aller. Et là aussi, peut-être une instruction pour nous d'être assez aussi ouverts pour que les uns et les autres puissent aller et que nous ne mettions pas de barrières sur « tu dois aller là » ou « tu ne dois pas aller là » ou « tu dois faire ci » ou « pas faire ça ». Alors, je parle dans le cadre du « aller » que le Seigneur donne à la fin de l'Évangile de Matthieu. C'est « aller et faites disciples, hein. ». Je ne parle pas de « aller et faire n'importe quoi, pique-pendre ». Voilà. Effectivement, nous avons aussi à reprendre celui qui se dévoie, ça, mais je parle du sens d'aller dans le sens d'aller pour ce que le Seigneur nous demande. Et chacun va avoir une mission et un terrain différent l'un de l'autre, et chacun va avoir une responsabilité vis-à-vis du Seigneur, et nous avons une responsabilité vis-à-vis du Seigneur uniquement. Uniquement de là où nous allons. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, je suis assez court, mais juste pour revenir sur cet échange que nous avons eu donc avec ce responsable d'église de maison, qui vraiment était très fort dans le sens que ne pas retomber dans une prison, ça a été pour moi une parole qui a été très très forte. Et dans quelle mesure moi je retombe dans des prisons ? Moi je retombe dans des contraintes par nos contraintes matérielles, par nos contraintes culturelles, par nos lâchetés, par mes lâchetés, par ma peur aussi. Cette grande instruction de ne pas avoir peur, n'ayez pas peur. Alors quand nous, dans nos sociétés occidentales, on entend ce « n'ayez pas peur », on se dit bon, « moi, je n'ai pas forcément peur hein, ». C'est plutôt un laisser-aller si je ne m'exprime pas, si je ne transmets pas ce que j'ai reçu de Dieu. C'est plus par fainéantise, à la limite. Une vraie peur, quel est notre vrai risque ? Il est très minime. Mais quand on entend des personnes qui vivent dans des pays où c'est vraiment un risque et qui va jusqu'à l'enfermement, hein, nous dire « mais moi, je ne veux pas avoir peur. Je refuse ce lien-là, je refuse cette contrainte-là de la peur. Je ne suis pas sorti d'une prison pour en rentrer dans une autre. Je suis sorti d'une prison pour être libre. Et je veux être libre dans mon esprit, libre dans mon âme, de dire et de proclamer ma foi comme je le souhaite. » Alors évidemment avec responsabilité. Là aussi, pas faire n'importe quoi en attirant systématiquement les foudres des autorités sur soi. Mais en tout cas, ne pas avoir peur. Voilà, et juste ce message pour nous, à la fois de ne pas avoir peur, d'être délié et de nous délier vraiment et d'accepter aussi que les autres nous délient de nos contraintes. Ça veut dire accepter aussi que quelqu'un nous fasse remarquer qu'on a une contrainte, qu'on a encore gardé un bandage à tel endroit-là. Et que ce lien-là, ce serait bien qu'on l'enlève. Et du coup, on va le faire aussi à plusieurs. Hein ? J'ai dit, Lazare, il ne pouvait pas le faire tout seul. Donc il accepte que quelqu'un d'autre le fasse avec lui. Et ça a à voir aussi à comment on s'assiste les uns les autres, comment on prend soin les uns des autres, avec délicatesse, pour les uns les autres permettre qu'on quitte ces liens qui nous attachent, qui nous asservissent et qui nous empêchent d'aller. Parce que c'est notre mission. Allez et faites disciples. Puis je finirai, je l'ai un tout petit peu mentionné dans ma prière au début, parce que après que le Seigneur nous dise « allez », il nous dit aussi qu'on n'est pas seul. « Voici, je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle ».
Évidemment, je ne vais pas aller sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais c'est bien parce que finalement, ça réoriente un petit peu différemment ce à quoi je pensais en lisant l'Épître aux Colossiens. Et au chapitre 2, à partir du verset 8, je lirai d'abord ce passage du verset 8 au verset 15 du chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde, et non pas selon le Christ. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de tout principat et de toute autorité. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite des mains humaines par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui, par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités et il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Tu as parlé de cette liberté que nous avons et du danger pour certains d'être privés de cette liberté. Et tu as parlé aussi de cette résurrection. On pourrait se dire, mais moi je ne suis pas Lazare, je ne suis pas allé dans le tombeau et je n'ai pas vécu ce que Lazare a vécu. Et donc, est-ce que le Seigneur me confie la même chose qu'à Lazare? Et finalement, on voit que ce passage nous dit, vous étiez mort du fait de vos fautes et il vous a rendu vivant avec lui. Donc finalement, ce que tu disais, on voit bien là que ça s'applique à nous avec d'abord un avertissement. Quand Paul écrit aux Colossiens, il les connaît pas personnellement. Hein, il n'est pas allé rendre visite aux Colossiens. C'est une église qui a été fondée par Epaphras, a priori. Donc quelqu'un qui connaissait Paul, qui avait entendu l'enseignement de Paul et qui a voyagé et qui a visité Colosse. Et il y a cette église naissante. Et c'est Epaphras qui fait le lien avec Paul et qui fait un rapport à Paul en disant, voilà, je suis allé à Colosse, voilà comment ils vont. Et il y a des choses positives, on le voit au tout début, hein, quand Paul fait les salutations à Colosse, il y a beaucoup de choses très positives sur cette assemblée. Mais il y a aussi une sorte d'hérésie qui s'est mise dans l'Église. Et peut-être c'est ces bandelettes-là dont tu parlais, et cette absence de liberté dans laquelle ils sont, et qui est liée à la situation de certains qui viennent à Colosse et qui disent « Bon, c'est très bien de connaître Jésus-Christ, Mais il faudrait aussi peut-être rajouter un certain nombre de règles pour être un peu mieux, un peu plus juif peut-être. Et donc il y a ce côté légaliste. On voit un peu plus loin dans les versets qui suivent ce que je viens de lire. Il y a la circoncision, les interdits alimentaires, etc. Donc il faut rajouter quelque chose à Christ. Puis inversement, il y en a peut-être qui disent oui, très bien, Jésus-Christ. Mais ce serait pas mal d'avoir aussi un certain nombre d'expériences peut-être un peu plus mystiques qui voilà serait peut-être lié à une sorte de mysticisme païen qui reste en fait dans l'ambiance à Colosse, parce que c'est là que c'est comme ça que les Colossiens vivaient les choses avant de connaître Jésus-Christ, et donc il y aurait un certain nombre de dieux, un certain nombre de pratiques liées au culte. Vous savez, quand on cultive la terre, bon, il y avait tout un tas de sacrifices aussi pour des dieux, pour que ça soit favorable. Et donc, voilà, ça restait un petit peu dans l'ambiance. Donc, il y avait les dieux traditionnels, et puis on rajoutait Jésus-Christ, ou bien, voilà, un ensemble de règles pour le côté juif. Et donc, on voit que l'hérésie, elle vient de l'intérieur. Elle vient de cette église où peut-être on veut rajouter un petit peu quelque chose au culte de Jésus-Christ. Et donc c'est pour ça que Paul commence en disant prenez garde. Prenez garde avec l'idée de voilà qu'on pourrait être une proie et que les Colossiens pourraient être une proie, mais que nous aussi nous pourrions être une proie à ceux qui voudraient rajouter quelque chose à Jésus-Christ. C'est ce que dit aussi l'apôtre Paul dans les Actes, et j'y pensais aussi en t'écoutant. Quand il écrit, c'est dans Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé épiscope. Faites paître l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais bien, moi, qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous-mêmes se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun de vous. Bon, c'est quelque chose qui dit aux Éphésiens, mais qui finalement s'applique un peu à toutes les églises. Alors là, en l'occurrence, il les avait visitées, donc il leur parle directement, il est avec eux. Mais finalement, c'est un peu ce qu'il écrit aussi à Colosse. Prenez garde, parce qu'il y en a qui vont vouloir remettre ces bandelettes, remettre quelque chose qui restreint cette liberté et qui même fait dévier du message de Christ. Et c'est ces prophètes de mensonges hein, dont parlait le Seigneur lui-même hein, quand il dit voilà, ils viennent déguisés en moutons mais en fait sont des loups voraces. On voit que le vocabulaire, c'est le même ici, ceux qui cherchent à ravir les élus. Et alors, il dit, voilà, prenez garde de la philosophie et des vaines tromperies. Alors, quand on lit ça, on a un peu, aujourd'hui, on se dit, ah oui, mais est-ce que c'est la philosophie du style, est-ce qu'il y a une école particulière de philosophie contre laquelle l'apôtre Paul s'élèverait? Est-ce que, voilà, il est contre un ensemble de penseurs de son époque? En réalité, je pense que là, ce qu'il vient dire, c'est plutôt un système de pensée où on n'est pas attaché à Jésus-Christ. Donc, c'est pas tellement une école de philosophie en particulier, mais c'est le fait de ne pas dépendre de Jésus-Christ. Et quand il parle des traditions humaines aussi, des éléments du monde, peut-être qu'il fait référence à tous ces croyances traditionnelles avec des règles cosmiques, des choses qu'il fallait respecter, des croyances propres au contexte païen grec dans lequel ils étaient, les Colossiens évoluaient. Et donc il les met en garde contre ça en disant, voilà, on n'est pas là pour ajouter Christ à ces choses-là, mais c'est Jésus-Christ tout entier à la place de tout ça. Et Jésus-Christ a remplacé toutes ces croyances. Et donc il ne faut pas en rajouter derrière. Et peut-être chez nous, ça s'applique un petit peu différemment. On aimerait ajouter des expériences émotionnelles, on aimerait ajouter, quelque chose de plus, de spectaculaire pour confirmer le message de Jésus-Christ. On aimerait se faire notre propre vérité en ne prenant pas le message de l'Évangile dans son entier ou en le tordant pour se confirmer à ce que l'on croit nous. Et en réalité, ce que l'apôtre Paul nous dit, voilà, c'est que c'est bien le message entier, mais rien que le message qu'il faut retenir. Et voilà, je rajoute, je vais pas rentrer dans les détails de tout ce que ce texte dit, mais simplement dire un mot sur cette question à partir du verset 11, de l'incirconcision, la circoncision, et puis ce baptême dans lequel on a été enseveli et réveillé ensemble. Paul nous parle de la circoncision qui est la circoncision spirituelle en Christ et qui nous permet de nous débarrasser de notre vieille nature et qui n'est pas la circoncision de la chair au sens où les Juifs l'entendaient. Et ça fait certainement référence à ce que on trouve dans le Deutéronome quand il est écrit « Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur » et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. On est rentré dans cette nouvelle alliance, et il y a une transformation intérieure qui est cette circoncision du cœur dont parle l'apôtre Paul ici, la circoncision du Christ, et non pas la circoncision de la chair, qui n'était que le signe extérieur chez les Juifs. Et donc nous sommes libres finalement des œuvres de la chair, libres de ne plus faire ce que notre nature nous conduirait à faire. Et ça, on l'avait vu il y a quelques semaines quand on avait relu les versets de l'Épître aux Galates, mais on voit que c'est aussi ce que dit l'apôtre Paul dans le chapitre 3 quand il parle au verset 5, chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir ce qui est terrestre, l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avidité qui est idolâtrie. » Voilà, on est libre en fait de tout ça. Et vivre en liberté, c'est avoir cette conscience que, oui, par nos propres efforts, on n'arrive pas à faire cela. On ne peut pas dompter notre ancienne nature. Même si on se met des règles extrêmement rigides, même si on essaye de tout notre cœur de ne pas faire ces choses-là, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une auto-amélioration où on cherche à changer, à se transformer progressivement par nos propres efforts, parce que la vie chrétienne, c'est d'abord une résurrection. Et c'est là ce que vient nous dire l'apôtre Paul quand il nous dit que voilà, Christ nous a réveillés d'entre les morts. C'est que nous ne sommes plus dans notre ancienne nature, nous avons une nouvelle nature. Et donc si nous pouvons être sur ce chemin de perfectionnement et de sainteté, c'est parce que nous sommes ressuscités et que c'est l'Esprit qui travaille en nous. Mais ce n'est pas notre propre désir qui pourrait arriver à mortifier notre chair. Alors voilà, ne comptons pas sur nos propres efforts, sur notre discipline, mais bien sur la puissance de résurrection en Christ. Et c'est là la liberté que nous avons, c'est de le suivre et de faire et d'aller là où l'Esprit nous conduira. Et puis il y a ces beaux versets où on nous parle du fait que l'acte qui avait été rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, un acte qui nous était contraire, c'est-à-dire en fait toute la liste très très longue de tous nos péchés qu'on pourrait faire et qui serait faite voilà, de manière très facile par notre Dieu qui connaît toutes choses de nous, eh bien cet acte a été cloué sur la croix. En fait, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, quand il a été crucifié, cet acte qui nous condamnait a été crucifié avec lui. Et quand l'apôtre Paul parle du pardon ici, il nous montre bien que tout est pardonné. Et c'est bien ce que le Seigneur Jésus dit sur la croix hein, quand il dit voilà, tout est accompli, tout est pardonné. Nous sommes lavés de l'ensemble de nos péchés, cette dette infinie que nous avions, eh bien Dieu l'a clouée à la croix. Alors, voilà, quand notre conscience nous accuse, pensons que la croix parle plus fort que notre honte. Quand on est peut-être encore prisonnier d'un perfectionnisme qui est quelque part un peu religieux, un peu judaïsant, eh bien, rappelons-nous que nous n'ajoutons rien en réalité à l'œuvre qui a été achevée. Et si on est un peu hanté par notre passé, parce qu'il y a des choses qui continuent de nous travailler, eh bien pensons bien que Dieu l'a cloué à la croix, tout cela. Et on ne va pas décrocher ce qui a été cloué à la croix. Et l'apôtre Paul finit par cette image du triomphe. Vous savez, cette image qui est celle dans l'Antiquité, hein, d'un général qui était vainqueur. C'était le cas des généraux romains en particulier, hein, qui... quand ils avaient conquis un pays, par exemple, faisaient prisonniers les principaux chefs et puis les emmenaient à Rome. Et il y avait un défilé avec un arc de triomphe. Et puis, on traînait derrière le char du vainqueur tous les prisonniers, les rois, les généraux ennemis qui étaient enchaînés, parfois nus. Et on les livrait en spectacle, un peu pour se moquer d'eux et pour montrer à quel point ils étaient vaincus. Et ce que nous dit ici l'apôtre Paul, c'est qu'en fait, alors que Satan pensait avoir gagné quand Jésus-Christ a été crucifié, et peut-être, voilà, on peut penser que Satan avait fait quelque part un peu alliance aussi avec les pouvoirs temporels, en particulier Rome, et aussi les chefs juifs qui avaient participé à crucifier Jésus-Christ. En réalité, c'est Christ lui-même qui a dépouillé ces puissances-là et qui les expose à la honte. Et la victoire, elle est renversée là. C'est bien celle de Jésus-Christ. Mais quand je lis ces versets, parfois, moi, je me dis, mais on parle de liberté, on parle de résurrection. On dit que Christ a défilé triomphalement. Et pourtant, parfois, j'ai quand même l'impression que la liberté, elle n'est pas de mon côté, mais elle est plutôt du côté de toutes ces puissances qui continuent de s'acharner et que je fais encore plein de choses qui montreraient que... je suis pas complètement libre et que c'est plutôt l'ennemi qui est libre. Et pourtant, c'est pas ce que dit la parole. Alors comment ça se fait que parfois j'ai cette impression qui est contraire à ce qui a été fait là à la croix. Et il y a une explication qui est donnée par John Stott dans La Croix de Jésus-Christ que je trouve assez intéressante. Alors je résume, hein, mais lui, il décrit le chemin du salut en 6 étapes. Et il dit, voilà, il y a la prédiction de la conquête et de la victoire à la croix dès la Genèse. J'avais au chapitre 3, il y a cette annonce de la victoire. Et puis il y a le début de la conquête avec le ministère de Jésus, ça c'est la deuxième étape. Ensuite il parle de la mort de Jésus en disant, ben, c'est la fin de cette conquête, c'est l'étape 3. L'étape 4, c'est la confirmation de cette conquête par la résurrection de Jésus. Étape 5, l'extension de la conquête avec l'Église qui va annoncer ce message. Et puis, il parle d'une étape 6, qui est la consommation de la conquête avec le retour de Jésus-Christ. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on en est à l'étape 5, avec l'annonce par l'Église. Et il reste l'étape 6. Et donc, l'annonce de l'Évangile, aujourd'hui, montre que, finalement, il y a encore ce travail où les puissances qui sont crucifiées, qui sont vaincues, l'acte a été crucifié, les puissances sont vaincues, mais ces puissances-là, spirituelles, qui s'acharnent, elles ne concèdent pas la défaite. Bien que ça soit accompli, elles ne concèdent pas la défaite. Et elles prétendent qu'elles n'ont pas vaincu, elles continuent à essayer de soumettre à la fois les non-croyants, mais aussi les croyants, à nous harceler, et elles ne se rendent pas compte qu'elles sont vaincues. Et c'est pour ça, dit John Stott, qu'il faut continuer à prêcher l'Évangile. Pour faire savoir non seulement que Jésus-Christ a ouvert les prisons, il nous a rendus libres, mais aussi pour soumettre nos potentiels geôliers, pour soumettre ceux qui cherchent à nous maintenir aussi dans cet emprisonnement dont nous parlions tout à l'heure. Et alors, voilà, annoncer l'Évangile, c'est annoncer le triomphe de Jésus-Christ aux non-croyants, mais aussi aux croyants. Et j'aime bien cette idée que ce que tu disais tout à l'heure, de dire « nous nous libérons et nous sommes là pour rappeler notre liberté », c'est pas simplement dans l'évangélisation et envers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, mais c'est aussi à nous-mêmes et les uns aux autres, nous rappeler que nous sommes libres. Nous rappeler que nous avons cette liberté, donc rappeler la liberté aux croyants, et c'est ce que fait Paul dans ce passage, pour que nous ayons enfin le pouvoir et savoir que nous avons cette liberté, que nous pouvons ne pas être harcelés, nous pouvons ne pas être soumis à ceux qui cherchent continuent à chercher à nous asservir. Donc voilà, c'est peut-être un peu loin de ce que tu disais tout à l'heure, mais ça m'a fait penser quand même que dans ce passage, à la fois à la vie qui nous est donnée et parce que nous étions morts et Jésus-Christ nous a ressuscités, mais aussi dans le fait de délier et de nous laisser aller, eh bien, c'est peut-être pas une fois pour toutes, parce que nous avons cette tendance à oublier et parce que nous ne vivons pas encore pleinement à cette étape 6, qui est encore à venir, mais dans cette étape où l'Église est là pour annoncer l'Évangile, eh bien, nous sommes aussi là pour nous l'annoncer les uns aux autres et nous rappeler, comme tu l'as fait tout à l'heure, la liberté dans laquelle nous sommes et nous encourager à vivre dans cette liberté. Et c'est bien, voilà, peut-être normal, parce que c'est notre condition humaine, de l'oublier quelquefois ou de ne pas le vivre pleinement, parce que, voilà, on est encore dans ce temps où les puissances pourtant vaincues cherchent à nous asservir. Mais grâce à ce message que tu nous as donné, grâce à ce que l'apôtre Paul écrivait aux Colossiens, et par souci de leur vie, de leur liberté, et parce que nous avons souci des uns des autres, continuons à prier les uns pour les autres et à nous rappeler, à nous exhorter à la liberté en Christ.